Bonjour à tous et rebonjour pour ceux qui étaient là ce matin. Le message du matin est en principe un peu plus long parce que c'est un message qui s'adresse plus aux chrétiens, ceux qui sont engagés pour le Seigneur, alors qu'en principe le dimanche après-midi c'est un message d'évangélisation, donc qui s'adresse plus à des personnes qui découvrent l'Évangile. Donc normalement, mon message de l'après-midi est plus court. Alors ce matin, j'étais limité au niveau du temps, j'ai essayé de le respecter. Cet après-midi, j'ai un temps illimité, mais mon message est plus court. Enfin, je vais dire ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Comme vous avez pu le lire sur votre petit programme, nous allons voir que Jésus nous invite à le suivre. À nous, aujourd'hui, mais nous allons voir que des hommes l'ont suivi il y a bien longtemps. Ils ont entendu donc l'appel de Dieu au travers de Jésus et ils n'ont pas hésité à le suivre. Il y a plus de 2000 ans. Mais Dieu est éternel, il ne change pas, il reste le même, et sa parole est vivante et permanente. Donc quand nous la lisons, le Seigneur peut nous interpeller, parce qu'il connaît nos besoins, lui qui connaît nos cœurs. Alors on va lire dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er et au verset 16. Dans l'évangile de Marc, chapitre 1er, verset 16, nous lisons « Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allés un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Amen. Ici, on voit donc Simon et André, ils sont pêcheurs, ils travaillent. Jésus les interpelle alors qu'ils passent le long de la mer de Galilée. Donc Jésus marche. Il voit ces hommes qui travaillent et il les appelle à le suivre. Ils suivent Jésus sans discuter. Ils connaissaient Jésus. Ils avaient entendu parler de Jésus. Ils savaient qui il était. Déjà Jean-Baptiste, qui était ce prophète pour préparer les cœurs à recevoir Jésus, avait parlé de Jésus. Il y avait des disciples de Jean-Baptiste qui ont entendu ce que Jean-Baptiste a dit de Jésus. Jean-Baptiste a rendu un témoignage concernant Jésus. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », a pu dire Jean-Baptiste un jour qu'il voyait Jésus passer. Donc Jésus commençait à être connu et ici, ces hommes avaient certainement entendu parler de Jésus. Ils n'ont pas suivi un inconnu. Mais au travers de cette parole de Jésus, c'est Dieu lui-même qui les a interpellés. Et ils ont suivi Jésus. Encore aujourd'hui, nous croyons que Dieu nous appelle. Alors, vous n'allez peut-être pas voir quelqu'un, quoique le Seigneur peut se montrer d'une façon ou d'une autre. Vous n'allez peut-être pas entendre de voix audible, mais le Seigneur peut nous appeler d'une façon ou d'une autre. Il a plusieurs moyens. Il est écrit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Et Dieu a plusieurs moyens. Il parle principalement par sa parole, que nous pouvons lire ou que nous pouvons entendre, comme cet après-midi. Mais il peut nous parler aussi par le biais d'une personne qui nous rend témoignage, qui voit peut-être notre détresse ou qui connaît notre problème, qui se confie à nous parce qu'elle nous connaît, et nous qui connaissons le Seigneur, nous pouvons lui dire ce que Jésus a fait pour nous et lui dire aussi que Jésus peut aussi agir pour elle. Il peut parler aussi au travers des circonstances. Quand on se trouve dans la difficulté, l'épreuve, il est écrit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, il le délivre de toutes ses détresses. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Son désir, c'est de nous faire du bien. Lui qui est notre Créateur, il nous aime, ce qui est logique. Et il veut nous rendre heureux. La vie sur la terre n'est pas facile. Il y a des luttes, il y a des combats, nous devons faire face à l'adversité. Il y a des épreuves, des difficultés, la maladie, la souffrance, le deuil. C'est pas facile. Et souvent, on se débat seul dans ces situations. Le Seigneur le voit, il n'est pas indifférent. C'est écrit. Son regard parcourt la terre. Il n'est pas indifférent aux actions des hommes. Et il est prêt à nous aider. Lui qui est notre Créateur, parce qu'il nous aime. Et il veut nous donner de bonnes choses. Il veut nous donner de bonnes choses. Il veut nous rendre heureux. On est toujours gagnant à suivre Jésus, à répondre à son appel. Nous l'avons fait et nous ne le regrettons pas. Mais c'est vrai que quand Jésus nous appelle, c'est pour notre bien, je viens de le dire. C'est pour nous rendre heureux. C'est pour nous conduire et nous guider à travers l'existence. Mais il faut parfois, dans un premier temps, abandonner certaines choses pour le suivre. Des choses qui peuvent nous encombrer. Même des choses qui peuvent nous tenir à cœur, mais qui vont être un obstacle à cette marche pour suivre Jésus. Il est écrit, c'est l'apôtre Paul qui le dit, que le soldat ne s'embarrasse pas des affaires de ce monde s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et quand on est un athlète, eh bien, on ne s'embarrasse pas de certaines choses, mais on doit être libre de ses mouvements pour essayer de remporter la victoire, d'atteindre le but. Il faut parfois abandonner certaines choses qui nous chargent, que l'on traîne derrière nous, qui nous empêche de marcher. Dieu veut que nous puissions comprendre que si nous les abandonnions, eh bien, nous aurons tout à gagner. Et en retour, il sera là pour nous bénir et il pourvoira à nos besoins. Parce que nous deviendrons son enfant, il sera notre Père Céleste à part entière. Et comme Jésus l'a dit, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Alors n'hésitons pas, nous le verrons dans quelques points. Une deuxième lecture qui nous parle aussi, mais qui nous permettra d'aller un petit peu plus loin dans le fait de suivre Jésus, de répondre à son appel, dans l'évangile de Luc, chapitre 5, verset 1er. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais, sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Voilà encore des hommes qui ont tout laissé pour suivre Jésus. Je disais tout à l'heure que Dieu est fidèle et qu'il répond à la prière de ses enfants et qu'il pourvoit à leurs besoins. Jésus a pu dire « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. » Et puis nous connaissons tous cette parole de Jésus qui a dit dans l'évangile de Matthieu « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses matérielles, le nécessaire, ce dont nous avons besoin, vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Nous allons voir donc, par rapport à ces textes et par rapport à cette introduction, que Dieu appelle des hommes et des femmes pour les sauver. Pour les sauver. Pour le salut. Quand nous répondons à cet appel de Dieu, quand nous l'entendons, et quand cette parole résonne dans notre cœur et trouve un écho favorable dans notre cœur, eh bien, nous sentons que si nous voulons suivre Jésus et avoir cette paix, être au bénéfice de ses grâces, savoir que Dieu pourra répondre à nos besoins, quels qu'ils soient, nous devons inévitablement laisser le monde mauvais dans lequel nous sommes, voire laisser notre vie passer avec ces lourds fardeaux que nous portons. Et là, il y a un combat intérieur, automatiquement, quand on entend l'appel de Dieu qui nous invite à le suivre. On voudrait, on sent que ce que Jésus nous propose est bon, mais en même temps, on a parfois cette petite voix intérieure qui va nous dire « Oui, mais si tu suis Jésus, il faudra peut-être que tu abandonnes ceci ou que tu abandonnes cela », sachant pertinemment que Dieu va nous conduire dans de bonnes choses, dans ce qui est bon, dans ce qui est bien. Automatiquement, eh bien, il faudra laisser certaines choses. Et il y a toujours un combat spirituel quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous interpelle, parce que la Bible nous dit que nous avons un ennemi qui, lui, eh bien, veut nous faire croire que si nous suivons Jésus, nous allons perdre notre liberté. Alors qu'il est le mensonge, qu'il est le menteur et qu'il ment sur cette liberté qu'il veut nous faire croire que nous allons perdre. Car quand nous réfléchissons bien, eh bien, il nous rend esclaves. C'est lui qui nous rend esclaves de toutes sortes de choses mauvaises, de toutes sortes de passions qui nous ont entraînés dans le malheur. Pour certains, dans bien des tourments. Et précisément, Dieu, qui est notre Créateur et qui nous connaît, qui connaît notre vie, qui connaît notre cœur, voit que nous sommes malheureux, que nous marchons péniblement. Et lui veut nous libérer de ces choses mauvaises. Au travers de Jésus, il est la véritable lumière, et il éclaire notre cœur, et il nous montre que ces choses que nous faisons, croyons être libres, en fait, nous tiennent esclaves et malheureux. Et il nous dit la vérité. Celui qui nous ment, c'est l'ennemi de nos âmes, c'est l'ennemi de Dieu, l'ennemi de nos âmes, c'est le diable. Il veut nous tenir sous sa coupe, sous sa domination, par toutes sortes de passions, de vices, de choses mauvaises. Et Jésus a pu le dire ouvertement, si le Fils ne vous affranchit, vous ne serez réellement libre. Jésus seul peut nous libérer de toutes ces choses. Mais il faut les laisser. Le Seigneur nous laisse libres, précisément. Et c'est à l'éclairage de sa parole sur notre cœur, par rapport à notre vie passée, que nous nous rendons compte qu'en fait, ces choses que nous pratiquons, pensant être libres, nous rendent malheureux. Et nous sommes esclaves. Nous sommes esclaves. Et le Seigneur dit, « Moi, j'ai la capacité de te libérer. Si tu les abandonnes, si tu veux bien les laisser, si tu veux me suivre. » Suivre Jésus, c'est automatiquement abandonner certaines choses, volontairement. Et le Seigneur veut nous montrer qu'elles sont néfastes, qu'elles sont mauvaises pour notre cœur, pour notre vie. Ensuite, deuxième aspect, donc, dans ces textes et dans ce qu'ont fait ces hommes, suivre Jésus, c'est marcher à sa suite, c'est donc obéir, c'est abandonner certaines choses. Ils ont abandonné leur travail, en l'occurrence, ce n'était pas mauvais, mais ça les accaparait, et Dieu avait autre chose pour eux. Et ils n'ont pas hésité, ils n'ont pas hésité. Ils ont obéi. Là encore, on est toujours béni quand on obéit à ce que Dieu dit. Parce qu'il ne va jamais nous demander des choses qui sont au-dessus de nos forces, il connaît nos capacités. Et il va nous donner sa force, il va nous aider pour que nous puissions lui obéir. C'est vrai que parfois nous ne comprenons pas toujours ce que le Seigneur nous demande. Et même si parfois cela nous paraît déraisonnable, obéissons au Seigneur. Et nous avons ici un exemple dans cette deuxième lecture par rapport à l'apôtre Pierre, enfin qui était Simon, Céphas, et qui est devenu l'apôtre Pierre. Jésus lui dit, « Simon, avance en pleine eau et jette tes filets pour pêcher. » Simon répond, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. À quoi ça sert, Seigneur ?» C'était des pêcheurs professionnels, ils savaient où se trouvait le poisson, et toute la nuit ils avaient travaillé, ils n'avaient rien pris. Pour quelle raison Pierre va obéir à la parole de Jésus ? Jésus n'est pas un professionnel de la pêche. Mais Pierre répond, sur ta parole, je jetterai le filet. Il obéit. Même si on ne comprend pas toujours ce que le Seigneur nous demande, obéissons. Parce qu'à chaque fois qu'on obéit à la parole de Dieu, il y a toujours un résultat extraordinaire et merveilleux. Nous en avons la preuve ici. C'est le miracle. Pierre a obéi sans vraiment comprendre. Et quand Pierre a obéi avec ses compagnons, ça a été extraordinaire. Extraordinaire. La pêche miraculeuse. Eux, ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien pris. Et uniquement sur la parole de Jésus, dans notre passage, il est dit « Jetez le filet du côté droit de la barque ». Pourquoi pas à gauche ? Non, obéissons simplement à ce que Dieu dit. Obéissons. Dieu sait ce qu'il fait. Et Pierre et ses compagnons ont été émerveillés. Dieu pourvoyait donc à Simon, à ses associés. Notre Dieu n'est jamais à court de solutions. Il est celui qui peut nous étonner. Il est fidèle. C'est vrai que pour le suivre, il faut abandonner certaines choses qui sont mauvaises. Cela paraît facile. Mais parfois, il faut abandonner certaines choses qui nous paraissent bonnes. C'est plus difficile. Et on va se dire, mais oui, Seigneur, je veux bien te suivre, mais si je laisse telle et telle chose, comment je vais faire après ? Si le Seigneur nous le demande, c'est qu'il sait ce qu'il va faire. Et il va pourvoir aux besoins de ses enfants qui obéissent. C'est ce qui s'est passé. Ils ont suivi Jésus. Jésus a pourvu, par cette pêche miraculeuse, aux besoins de la famille, de Simon et de ses associés. Enfin, suivre Jésus, c'est être qualifié par lui dans ce qu'il nous demande de faire. Jésus n'agit pas au petit bonheur la chance, il sait ce qu'il fait. Et quand il nous appelle les uns et les autres pour le salut, il nous appelle tous, parce que à la lumière de sa parole, nous réalisons que nous sommes perdus. Il veut nous sauver. Il faut abandonner les choses qui nous éloignent de Dieu, qui sont mauvaises. Il faut les déposer au pied de la croix de Jésus. Il faut lui ouvrir son cœur. Ensuite, il faut s'engager, il faut obéir. Il faut obéir. C'est pas que des paroles seulement. Il faut qu'il y ait des actes. Quelque chose de concret. La foi doit être concrète. Beaucoup d'hommes et de femmes disent « je crois », mais on voit rien. Rien ne change dans leur vie. Le Seigneur veut que nous puissions croire. Et à l'écoute de sa parole, la foi vient dans notre cœur. C'est écrit. La foi vient de ce que l'on entend, c'est ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est lui qui suscite la foi et qui la perfectionne, Jésus. Parce qu'il nous montre qu'il va agir, qu'il va pourvoir. Si nous obéissons, si nous nous engageons, il sera là, il est fidèle. Jésus a dit à Pierre, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et aux autres aussi d'ailleurs. L'apôtre Pierre n'avait jamais pêché des hommes. N'est-ce pas ? Il pêchait des poissons. Pêcher des hommes. Mais Seigneur, moi je ne sais pas faire, je ne suis pas qualifié. Je veux bien pêcher les poissons, je suis un professionnel, mais pêcher des hommes, c'est une autre paire de manches. Comment faire ? Jésus savait que Pierre était un novice. Mais Jésus l'appelle quand même. Jésus l'appelle. Alors il sera pendant 3 heures et demie à l'écoute de Dieu, avec les autres disciples. Ses associés, d'ailleurs, l'ont suivi, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Il sera précisément à l'école de Dieu, à l'écoute de Dieu et à l'école de Dieu. Le Seigneur nous appelle les uns et les autres, il veut nous sauver, il veut que nous puissions nous engager, obéir, et il va nous suivre pas à pas. Il va être près de nous. Il marche devant nous, mais il nous garde aussi. Il nous protège. Il va nous donner ses conseils. Il va nous dire ce que nous devons faire ou ne pas faire. Nous allons grandir. Nous allons apprendre. Nous allons faire des expériences avec lui. Suivre Jésus, ce n'est pas obligatoirement avoir une formation adéquate et connaître sa Bible par cœur pour dire « Seigneur, maintenant je peux te suivre parce que j'ai cette formation. » Non. On n'a pas besoin de faculté de théologie pour suivre le Seigneur. Dieu peut former lui-même ses serviteurs. Il en est capable. Bien sûr, il faut être équilibré. Et ne dites pas ce que je ne veux pas dire. Pour autant, Dieu ne va pas appeler que des illettrés ou des ignorants. Dieu appelle tous les hommes, quels qu'ils soient. Des riches, des pauvres, des instruits, moins instruits. Nous sommes tous ses créatures. Dieu est souverain, il sait ce qu'il fait. Quand il appelle quelqu'un, si on va plus loin, au-delà de la conversion, à son service. Il a appelé Pierre, Jacques et Jean, et d'autres, des hommes peu instruits, mais qui étaient pleins de courage, et qui n'ont pas hésité une seconde à abandonner ce qu'ils faisaient pour suivre Jésus. Et ils lui ont fait pleinement confiance. Mais il a appelé des hommes aussi instruits. L'apôtre Paul fait partie de ces hommes qui avaient une grande instruction. Luc était médecin, celui qui a écrit l'évangile qui porte son nom et le livre des Actes des Apôtres, à son ami Théophile. Ils ont servi Dieu, les uns et les autres, et Dieu les a formés. L'essentiel pour nous, c'est d'entendre la voix de Dieu qui nous appelle. Et c'est de répondre. Oui, Seigneur. Jusqu'à présent, ma vie, Seigneur, ça a été un échec. J'ai voulu suivre mes propres idées, mes propres pensées. Et je tourne en rond, Seigneur. Je m'en sors pas. Maintenant, Seigneur, je veux répondre à ton appel. Et je suis prêt, Seigneur, à t'ouvrir mon cœur, tout abandonner. Seigneur, pour te suivre, eh bien, je veux obéir parce que je sais que tu vas me conduire dans de bonnes choses. Et puis, Seigneur, je me sens tellement petit, tellement faible, sans capacité. Eh bien, je compte sur toi, Seigneur. Voilà le cœur qui est agréable au Seigneur. Voilà le cœur que Dieu va prendre et va entourer de sa grâce, va conduire, va former. Et quelque temps plus tard, quand on continue la lecture des évangiles, voire jusque dans le livre des Actes des Apôtres, on voit ces hommes sont devenus les disciples de Jésus, les apôtres de la première Église. Dieu les a utilisés, les uns et les autres. Dieu les a utilisés. L'essentiel, ce qui est important, c'est de répondre à l'appel de Dieu, à le suivre. Le Seigneur nous appelle tous, quelle que soit notre condition, le Seigneur nous appelle à le suivre. Que nous puissions être comme ces hommes et dire « Oui Seigneur, je veux te suivre ». On le chante jusqu'au bout. « Je veux te suivre ». Pour résumer ce que nous venons de voir, nous devons le suivre pour le salut. Ça c'est la première chose. Parce que nous sommes tous perdus, la Bible le dit, et à la lumière de la parole de Dieu, il éclaire notre cœur et il nous montre que notre cœur est bien sale, bien noir, qu'il a besoin d'être lavé. Il faut abandonner ces choses mauvaises, il faut les laisser. Il faut demander au Seigneur qu'il brise ses chaînes, et le Seigneur va le faire. Lui seul est capable de le faire. Ensuite, il faut obéir. C'est lui qui donne les ordres, les directives, les instructions. On ne fait pas ce qui nous plaît, mais il faut savoir que Dieu va toujours nous conduire dans de bonnes choses. Il ne va pas nous tromper. Il ne va pas nous tromper. Et puis, c'est lui qui appelle les uns et les autres. C'est lui qui qualifie. C'est lui qui forme. C'est lui qui instruit. C'est lui qui nous permet, eh bien, de produire du fruit. Et d'être heureux de voir que le Seigneur peut travailler avec nous, peut nous utiliser, tout simplement. Cela réjouit notre cœur. Et en retour, eh bien, nous pourrons donner. Il est écrit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et on ne peut donner que ce que l'on a reçu. C'est le Seigneur qui donne. Et ainsi, on peut donner. Et Dieu est glorifié. Pour terminer, donc ce message, ces quelques pensées que nous venons de voir ensemble, nous pourrions lire dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 12. Première épître aux Corinthiens, chapitre 12 et verset 12. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Dieu appelle tous les hommes, quels qu'ils soient. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire au pied « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plus tôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. On rentre dans la famille de Dieu. On devient ses enfants. Et Dieu, c'est Dieu qui a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-ils docteurs ? Tous ont-ils le don des miracles ? Tous ont-ils le don des guérisons ? Tous parlent-ils en langue ? Tous interprètent-ils ? Aspirez aux dons les meilleurs. Ce que je veux dire par là, c'est un autre sujet, c'est vrai, par rapport à cette lecture, c'est que Dieu appelle les hommes et les femmes, que nous devons obéir, répondre, et ensuite compter sur sa grâce, parce que c'est lui qui qualifie. C'est lui qui qualifie. Et les uns et les autres, nous sommes à notre place, à la place que Dieu a prévue, et nous devons marcher tous ensemble, en suivant Jésus. Et c'est alors, que l'ensemble bien coordonné forme le peuple de Dieu et que Dieu se réjouit et satisfait de voir tous ses enfants unis. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous as appelés, Seigneur, les uns et les autres. Nous étions de différentes conditions sociales, Seigneur, de différentes conditions d'instruction, Seigneur, de niveau, enfin, peu importe. Nous sommes tous tes créatures, ça c'est évident, Seigneur Jésus. Et toi, tu nous aimes tous, tu fais aucune différence. Et tu nous vois malheureux, nous débattre dans nos problèmes, Seigneur. Et tu nous appelles, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous devons, Seigneur, être à l'écoute, Seigneur, bien reconnaître ta voix. Nous ne pouvons pas nous tromper, c'est la voix de la vérité. Et notre âme connaît la voix de son Créateur. Elle ne s'y trompe pas. Aussi, Seigneur, tu ne nous appelles pas, Seigneur, pour nous décevoir. Mais tu nous appelles pour nous conduire dans de bonnes choses. Pour cela, Seigneur, nous devons abandonner certaines choses. Nous devons réaliser que certaines choses sont des obstacles. Bien sûr, ce qui est mauvais est automatiquement un obstacle. Mais certaines choses qui nous paraissent bonnes peuvent être aussi des obstacles. Dans ce cas, Seigneur, tu nous demandes à te faire pleinement confiance. Parce que tu pourvoiras nos besoins, Seigneur, quelle que soit la situation. Parce que tu es bon et tu es fidèle. Ensuite, Seigneur, ce que tu désires, c'est que nous ne regardions pas à nous-mêmes, mais que nous regardions à toi, Seigneur. C'est toi qui donnes la capacité, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui instruit, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui équipe. C'est toi, Seigneur, qui guide et conduit, Seigneur. Nous n'avons qu'à te suivre, tout simplement, Seigneur Jésus. Et tu nous communiques ta force. Et Seigneur, si nous avons cette vision, Seigneur, alors nous marcherons, Seigneur, humblement, Seigneur, devant ta face, un pas à la fois, et nous atteindrons le but, Seigneur. Tu n'as pas dit, Seigneur, que nous allons couler, mais tu as dit, allons de l'autre bord, Seigneur Jésus. Bientôt, Seigneur, tu vas revenir nous prendre. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Bénis, Seigneur, ces amis qui sont là cet après-midi. Amen.